Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Je suis très heureux de vous retrouver après avoir laissé la présentation quelques semaines à Margot Barallon qui a parfaitement pris le relais. Et pour mon retour, justement, on va chanter.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you.
À l'occasion de la sortie en DVD du biopic Billie Holiday, et alors que plusieurs biopics consacrés à Lady Day sont attendus dans les salles dès leur réouverture, on va revenir sur tous ces biopics musicaux qui se multiplient, que ce soit des biopics consacrés au classique avec le pianiste ou Amadeus, à la pop avec Elton John et son Rocketman, Queen et son Bohemian Rhapsody, ou Stardust consacré à David Bowie, ou encore à la soul, je pense à Ray par exemple. Pourquoi ces biopics plaisent-ils autant au public et si peu à la presse? Et surtout, pourquoi ils se multiplient? Je vous raconte tout dans un instant. 14h30, vous avez rendez-vous avec Gérard Lanvin qui répondra à notre questionnaire « Les films de ma vie ». Alors par exemple, dans quel film aimerait-il vivre?
Non mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Il est beau, c'est ça? Moi aussi, je suis beau dans mon genre. Et puis la beauté, hein, c'est toi qui le dis.
Ça ne veut rien dire.
Nous sommes d'accord.
Vous aurez reconnu César et Rosalie pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Gérard Lanvin. Rendez-vous dans une demi-heure. Enfin, juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Aujourd'hui, on parlera de Terrible Jungle avec Catherine Deneuve et Vincent De Dienne qui arrivent sur OCS, de Judas and the Black Messiah qui vient de décrocher un Oscar et débarque sur MyCanal. On parlera aussi du film Les Mitchell versus les Machines sur Netflix et de Sans aucun remords sur Prime Vidéo. Mais d'abord donc, place à notre récit consacré à la multiplication des biopics musicaux sur grand écran.
Europe 1, le récit.
Si les biopics musicaux se sont multipliés ces dernières années, ce n'est pas pour autant un genre nouveau. Dès 1945, par exemple, sortait le film Rhapsody en bleu, consacré au compositeur George Gershwin, et plus particulièrement à sa relation avec la chanteuse Julie Adams.
I'm not good for you, George.
Don't you love me enough?
Maybe I love you too much.
Et bien que ce biopic soit assez fantaisiste, il permettait déjà aux spectateurs de découvrir la vie, quelque peu romancée, du célèbre pianiste, de le voir autrement, en somme, autrement que via ses compositions ou assis derrière son piano. C'est aussi le parti que va prendre Milos Forman avec Amadeus, sorti en 1984. Objectif, passionner le public avec un personnage dont on connaît au final très peu de choses, si ce n'est sa musique. Pour Mozart, typiquement, on sait que c'est un génie, très précoce, mais c'est à peu près tout. Milos Forman décide donc de permettre aux spectateurs de découvrir les secrets de sa vie, mais à travers les mémoires de son concurrent, le compositeur Salieri.
D'abord les voix, les basses.
Confutatis maledictis.
Maintenant l'orchestre, second basson, trombone, basse, avec les basses notes identiques, même rythme. Identique? Oui, bien sûr, les instruments doublant les voix. Maintenant, trompette et tympanie. Trompette en ré.
Écoutez-moi. Je ne comprends pas.
Écoutez! Tout cela est en harmonie.
Amadeus qui sera un immense succès critique et public. Le film remporte 8 Oscars et totalise près de 4 500 000 entrées en France. Écoutez Milos Forman qui en parlait au micro d'Europe 1.
On n'a pas fait une biographie. Hein. Si c'était biographie, ça, sûrement je n'étais pas intéressé. Non, c'est une histoire dramatique à soi-même. Et parce que c'est Mozart et Salieri, alors c'est Mozart et Salieri. Mmh. Moi, je ne connaissais pas beaucoup la musique de Mozart. Alors, j'ai voulu utiliser la musique d'une façon que moi, que je peux comprendre. Alors, n'importe qui avait mon connaissance de la musique assez médiocre pouvait le comprendre.
Alors on peut situer, dater la multiplication de ces biopics musicaux dans les années 70. On est en pleine période hippie, Woodstock, et ce nouveau mode de vie des artistes entre drogue, concerts et recherche d'inspiration fascine le public. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Oliver Stone à réaliser The Doors, un biopic sur le célèbre groupe de rock et sur Jim Morrison, leur leader, mort prématurément à l'âge de 27 ans.
The
sondage, combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Conneries! Vous êtes des petits soldats en plastique dans une poussière de guerre miniature. Répondez! Combien d'entre vous savent qu'ils sont vivants? Combien savent qu'ils sont vraiment vivants?
Mais pour qu'un biopic musical fonctionne, il faut d'abord que le spectateur ait le sentiment de pénétrer dans la vie secrète de ces stars. Des vies souvent chaotiques, entre famille, drogue, tournée, femmes déchaînées. Autre grande morale de ces films, le succès ne rend pas heureux. Prenez Dalida par exemple, signée Elisa Azuelos, que nous recevrons tout à l'heure dans ce studio. On découvre dans le film une chanteuse malheureuse, en amour notamment.
Je comprends votre douleur, mais...
Mais quoi ? J'ai 34 ans. Pas d'amour, pas d'espoir, pas d'enfant, pas de...
Vous donnez de l'espoir à des milliers de gens.
Et moi, qui m'en donne ?
Alors c'est vrai que ces dernières années, je le disais, les biopics se sont multipliés sur nos écrans. Bohemian Rhapsody, par exemple, consacré au groupe Queen, Rocketman sur Elton John, Ray sur la vie de Ray Charles, avec des acteurs qui, à chaque fois ou presque, livrent une performance incroyable pour ressembler le plus possible aux stars qu'ils incarnent. Dans Bohemian Rhapsody, Rami Malek a dû prendre des cours de chant, de danse, de piano pendant des mois afin d'être parfaitement crédible en Freddie Mercury.
Bon, alors, peux-tu me dire pourquoi vous jouez pas de vos instruments ?
Je veux essayer de donner aux spectateurs une chanson qu'ils peuvent interpréter. D'accord ? Je veux qu'ils puissent participer au concert. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Imagine des milliers de personnes tapant à l'unisson. Hein ? Alors ? Et les paroles, c'est quoi ?
En France, rappelez-vous, Jérémy Régnier a interprété Claude François dans le film Clo-Clo. Il racontait sur Europe 1 comment il s'était glissé dans la peau du célèbre chanteur des années 60 et 70.
J'ai découvert, pour la préparation, réellement quel personnage c'était. Parce que j'avais une idée un peu fausse de Claude François, cette image qu'il nous a laissée derrière ce costume à paillettes, chanteur un peu ringard, je dirais. Et j'ai découvert un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, moderne. Parce que le mec avait tellement une énergie sur scène, il perdait 2 kilos par soir de show. Donc moi, je devais tenir toute une journée. Donc voilà, ouais. Régime, sport, énormément de sport. Le chant, forcément. La danse. J'ai été coaché, super bien coaché, mais je ne savais pas danser avant, non.
Et les exemples sont nombreux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, une interprétation dans un biopic musical vaut un Oscar de meilleur acteur ou actrice. Récemment, Rami Malek a décroché la statuette pour son rôle de Freddie Mercury, mais d'autres avant lui ont remporté la prestigieuse récompense. Jamie Foxx pour Ray sur la vie de Ray Charles, Joaquin Phoenix pour Walk the Line, biopic sur le chanteur de country Johnny Cash, Marion Cotillard aussi bien sûr, inoubliable en Edith Piaf. L'actrice raconte avoir eu recours à de l'exorcisme pour réussir à sortir du rôle une fois le tournage terminé. Elle était au micro d'Europe 1 juste après avoir reçu son Oscar.
J'ai eu le cœur qui battait très très fort avant que Forest Whitaker ouvre l'enveloppe. J'ai trouvé un mot, c'était peut-être submergé par plein de choses. C'est extraordinaire.
Il faut quand même dire que le biopic musical présente un avantage certain. Plus l'artiste qu'il raconte est connu, plus le film a de chances de marcher. Les producteurs peuvent compter sur une base de fans solide qui ira, à coup sûr, voir le film. L'autre avantage, c'est que très souvent, le succès du long-métrage relance les ventes de musique. D'ailleurs, les producteurs du film possèdent aussi souvent les droits sur l'œuvre. Certains biopics ont même été imaginés pour relancer les ventes de disques. Amy, par exemple, sur la chanteuse Amy Winehouse, a boosté, 10 ans après sa sortie, les ventes de son album « Back to Black ». Alors il faut aussi noter que malgré un succès populaire, le plus souvent ces films n'emballent pas la critique. L'une des raisons sans doute, c'est leur supposé manque d'originalité et une mécanique d'écriture qui semble souvent trop automatique. D'abord une enfance difficile, puis un premier concert qui fonctionne, qui permet de se faire repérer, puis le succès, puis la recherche de la liberté, et à la toute fin, un panneau noir sur l'écran avec quelques lignes de texte sur la façon dont l'artiste a fini sa vie. Alors oui, certains réalisateurs essaient de casser ce schéma. Todd Haynes, par exemple, avec I'm Not There dans ce biopic sur Bob Dylan, le chanteur est interprété par 6 acteurs différents tout au long du film, dont une femme, Kate Blanchett.
You're kidding me, Rick. I can't watch this. How does it feel?
Et pourtant, ce film n'a pas attiré les foules, mais il a au moins eu le mérite de dépoussiérer le genre. En France, Valérie Lemercier s'essaie même au faux biopic avec Aline, qui devait sortir, mais qui a été repoussé de quelques mois, inspiré de la vie de Céline Dion. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi Gus Van Sant, qui avec Last Days a choisi de se concentrer uniquement sur les derniers jours du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain, avant son suicide à l'âge de 27 ans.
Nirvana est un groupe qui vient de Seattle, qui est une ville qui jusqu'à présent n'avait pas vraiment donné grand-chose sur le plan musical. Et ils ont été à l'origine de la vague qu'on appelait le grunge. C'était ce qui caractérisait Kurt Cobain. C'est à la fois le côté très violent et une indolence assez rigolote à regarder.
Et puis il y a ces biopics qui créent la surprise et nous font découvrir un artiste à côté duquel on était passé. Pas grand monde ne connaissait Sixto Rodriguez avant le documentaire Sugarman.
If ever there is an air of intrigue and mystery around a pop artist, it is around the artist known as Rodriguez.
Le film décrochera même l'Oscar du meilleur documentaire en 2013. Alors on attend maintenant des biopics, je vous le disais, sur Billie Holiday, sur Elvis Presley aussi, qui devrait sortir cet été, sur les Bee Gees, réalisé par Kenneth Branagh, ou encore un biopic sur Johnny Hallyday, avec Jalil Lesper derrière la caméra. Mais alors, comment on construit un biopic musical? Quels sont les écueils à éviter, les codes à appliquer? Pour en parler, je reçois dans un instant Lisa Azuelos, réalisatrice de Dalida. Mais d'abord, on va écouter, justement, j'en parlais il y a quelques secondes, Sugarman, signé Sixto Rodriguez. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1.
Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, you're the answer that makes my questions disappear. Sugarman, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On parle aujourd'hui des biopics musicaux. Et justement, pour poursuivre notre réflexion, je voulais accueillir Lisa Azuelos, réalisatrice notamment de Dalida. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors d'abord, question vaste, mais pourquoi et comment finalement on décide de réaliser un biopic musical? Est-ce que c'est dans votre cas parce que vous étiez fan de l'artiste en question? Qu'est-ce qui vous motive au départ?
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont motivé ce choix. La première, c'est que vraiment... l'histoire de Dalida est une histoire intime de femme qui m'a énormément touchée, parce que c'est vraiment raconter un parcours de 1935 à 1987, et c'est vraiment une période très très dense dans l'histoire du monde aussi. Ça permettait de faire un biopic du monde en même temps, et du monde musical, qui est un monde que je connais bien à travers ma maman. Je pense que c'était une manière aussi de parler du showbiz que je connais bien à titre perso, mais surtout que j'ai vu moi enfant dans ces années-là avec ma mère. C'était une manière un peu détournée aussi, peut-être, de faire un film sur elle, mais pas sur elle. Donc voilà. Ensuite, c'est vraiment extraordinaire de faire un film épique. Quand on fait un biopic musical, c'est que forcément, on va mettre en scène de la comédie musicale. Moi, je suis venue au cinéma par la comédie musicale. J'allais au cinéma MacMahon quand j'habitais à Paris toutes les semaines ou deux fois par semaine pour voir Fred Astaire ou Gene Kelly ou toutes les comédies musicales. Donc savoir que je vais devoir mettre en scène des choses comme ça, c'était vraiment excitant. Et puis c'est des films énormes, quoi. Donc c'est génial à faire.
On n'a pas peur parfois d'être écrasé un peu par le poids du personnage. En l'occurrence, Dalida, c'est tellement un personnage public, connu, reconnu. Est-ce que parfois il n'y a pas cette petite appréhension de se dire je vais raconter la vie d'un personnage comme ça?
La vraie appréhension, vous avez raison, c'est qu'on m'a confié la vie de quelqu'un et je ne veux pas la trahir. Quand c'est ma vie à moi, je peux me trahir et ça ne me pose pas de problème. Quand c'est la vie des gens que je connais un peu et qui se reconnaissent un peu dans les films, c'est pas trop grave non plus, parce que personne les connaît. Là, en l'occurrence, c'est comme si on me confiait vraiment une vie dans un petit porcelaine très cassable et qu'il faut que je la transporte pendant 2 ans, pendant le temps où va se faire le film, et que je dois perdre ni une goutte d'eau, ni casser la porcelaine. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un petit peu effrayant, mais en même temps, je suis rentrée en communication avec elle, au même titre que les acteurs qui jouent des rôles ressentent des choses. Bah là, en fait, la direction d'acteur et surtout l'écriture du scénario, on rentre complètement en connexion avec ce personnage. Ensuite, à l'ère d'Internet, c'est un peu moins dur, à mon avis, qu'avant, puisque j'avais vraiment à portée de main toutes ces interviews. Donc, je sais qui elle est au travers de ce qu'elle raconte. Et c'était passionnant, mais il y a aussi comme un travail de sorcière, de channeling, comme on dit, où tout à coup, j'entends des choses qu'elle me dit, où je suis connectée, je me dis, mais c'est comme ça qu'elle aurait réagi, ou je pouvais comprendre ce personnage-là. Et puis, la douleur aussi de pas être mère, puisque moi, je sais que si j'avais pas été maman, ça aurait été une énorme douleur pour moi. Donc voilà, en creux ou en plein, de toute façon, j'arrivais toujours à dessiner ses contours.
Et c'est en ça aussi que finalement ces biopics racontent beaucoup de choses au-delà de la vie des artistes, c'est sans doute aussi de nos vies personnelles.
C'est ça qui est intéressant, parce que si c'est juste raconter un personnage, c'est pas très intéressant. C'est de voir ce qui peut, dans un personnage public, finalement, catalyser tant d'émotions et tant de personnalités différentes.
C'est justement quand vous l'écrivez et quand vous préparez ce film, est-ce qu'il y a des écueils dans lesquels faut pas tomber? Est-ce qu'il y a des facilités? Parce que c'est vrai qu'on a l'image des biopics musicaux, souvent qui sont des films assez classiques dans la façon assez linéaire, parfois comme ça, dans l'ordre chronologique. Est-ce qu'il y a des choses et des pièges où vous êtes dit ça, faut vraiment pas que je tombe là-dedans?
J'avais justement pas envie de raconter une histoire linéaire. Je suis partie en fait du mot qu'elle a laissé avant de se suicider, qui est « pardonnez-moi, la vie m'est insupportable ». Et en fait, le but du film, c'est qu'on la pardonne. Je suis partie du principe que c'est elle qui me demandait de faire en sorte qu'on puisse pardonner à ce geste qui est insupportable pour tous les humains qui restent, en fait. Parce qu'on se dit « mais pourquoi j'ai pas été là pour elle ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu faire qu'elle se suicide pas ?» Chaque suicide est un échec du collectif, en fait. Et voilà, et moi j'avais envie d'expliquer que c'était un choix de vie, que c'était aussi un destin, que c'était une machine infernale qui était en elle, qu'elle avait pas réussi à combattre, et peut-être aussi de donner des clés à d'autres personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie, parce que c'est une maladie, le suicide, elle en parle beaucoup, et peut-être donner des clés pour dire, voilà, ça c'est des routes qui mènent peut-être à ça, il faut peut-être aller voir ailleurs, il y a peut-être des choses à combler avant, à comprendre. J'essaye de donner des pistes pour comprendre ce qui rend ça possible. Bref, voilà quoi. C'est.
Pourquoi, selon vous, Lisa Azuelos, ces dernières années, on a l'impression que les biopics musicaux, il y en a de plus en plus? Est-ce que c'est parce que souvent, il faut bien le dire, ça marche bien dans les salles? Ou est-ce que c'est parce que voilà, il y a une attente du public de découvrir un peu le secret derrière ces personnages ou ces stars?
C'est un peu de tout. Je pense que pour faire des films, il faut des gens qui les financent. Donc, les gens qui les financent doivent penser que ça va probablement marcher. Et puis, les gens qui sont intéressés par ça, On fait pas un biopic par hasard, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là qui résonne avec mon histoire à moi. Quand je dis mon histoire à moi, c'est l'histoire du metteur en scène ou l'histoire de l'actrice ou de l'acteur. Enfin, il y a quelque chose qui donne envie de porter cette voix-là un peu plus loin. Et les gens deviennent pas des stars par hasard. Quand ils sont des stars, c'est parce qu'ils catalysent en eux une personnalité qui représente toutes les personnalités du moment. Quoi.
Vous avez envie aujourd'hui de réaliser un autre biopic musical ? Vous avez une autre envie, une autre idée ?
Ah, j'en ai plein, bien sûr. Mais je viens de voir, malheureusement, que Steven Spielberg a fait un remake de West Side Story. Alors ça, déjà, c'est plus possible. Non, je voudrais faire un film sur une période de l'histoire qui est très méconnue, qui est... le moment où on a brûlé dans un stade en 1979, dans un stade de foot américain, tous les vinyles de disco. Ça s'appelait Disco Suck Party, ça veut dire le disco ça pue. Et ça a été vraiment un peu comme au temps des nazis où on brûlait des livres. Là, ils ont brûlé des vinyles pour dire qu'ils en avaient marre du disco, de cette musique qui laissait libre cours aux noirs et aux gays. Et c'était vraiment un truc ultra raciste. Et que personne a vraiment jamais connu. Du coup, ça me donnerait l'occasion de parler du disco en parlant d'un sujet de société assez impressionnant, en fait.
Et c'est un projet sur les rails ?
Pas du tout.
D'accord, c'est une envie.
Voilà, si ça intéresse un producteur qui est en train d'écouter, il sait où me joindre.
J'espère qu'on vous portera chance. Merci beaucoup, en tout cas, les Azuelos, d'avoir fait un petit détour par le studio de Clap aujourd'hui pour parler justement de ces biopics musicaux. Et notamment de Dalida, qu'on peut voir ou revoir évidemment en DVD, VOD. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission et pour notre questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui c'est Gérard Lanvin qui a accepté de partager avec nous ses souvenirs cinéma. À tout de suite.
Europe 1.